Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Capot Diamant et Géo Plein Air. Au programme, René Martel. Le trésor de Lotbinière. Et les combats du libraire Bernard Amtmann. Bonne écoute.
René Martel, 1947-2021, Une éternelle jeunesse. Un texte de Yves Laberge, paru dans Capot Diamant, été 2022, numéro 150. La chanteuse René Martel est décédée le samedi 18 décembre 2021 d'une maladie respiratoire non reliée à la COVID-19. Aussitôt, les nombreux hommages à son sujet rappelaient qu'on la surnommait « la reine du country ». Ce n'est pas faux. Et pourtant, René Martel doit aussi sa célébrité au fait qu'elle a aussi été une magnifique chanteuse pop qui a fait les palmarès entre 1968 et 1974. Son cycle de succès s'amorça en 1967 avec « Liverpool », qui n'était pas son premier disque. La liste de ses chansons immortelles serait trop longue à énumérer. On retiendra initialement en 45 tours « J'aurai mon tour de chance »,« Je vais à Londres »,« Johnny Angel »,« Viens changer ma vie »,« À demain, ma darling », »,« Une chanson sentimentale pour une fille sentimentale ». Vocalement, René Martel avait ce don de pouvoir moduler subtilement une note, presque imperceptiblement, pour lui donner une impression de fragilité, avec un brin de tristesse. C'était son secret. Elle savait en user en le dosant sciemment, mais sans en abuser. Par exemple, à la fin du refrain de Liverpool, quand elle chante le mot « remorqueur ». Cette manière si personnelle d'infléchir une note, de faire tanguer une syllabe pour un bref instant, se confirme tout particulièrement en réécoutant son phrasé dans « Quand un bateau passe », adapté de « Trains and Boats and Planes » sur une musique de Burt Bacharach et des paroles originelles de Hal David. Une adaptation française avait été écrite par Claude François et Liliane Conin, mais le texte de la version de René Martel était assez différent dans la dernière moitié du texte. Ci-dessous, je souligne les moments d'infléchissement dans l'intonation de René Martel. Quand un bateau passe, quand un bateau passe, quand un train siffle, quand un avion s'envole dans le ciel, moi, j'imagine tous ces départs. En outre, l'arrangement de « Quand un bateau passe » contient en plein milieu de la chanson un supplément mélodique qui ne faisait pas partie de l'original au moment où des voix en canon font des « la 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 » qui semble se superposer. On aurait tort de réduire René Martel à une simple traductrice de chansons anglo-américaines. Elle savait au contraire les bonifier, les parachever, et plusieurs de ses versions surpassaient les créations originelles en anglais, non seulement par les paroles et sa voix, mais aussi par ses arrangements. Par exemple, dans le solo de trompette de « J'aurai bien mon tour de chance ». Aussi, elle ajouta une coda, un ciel plus beau, des jours heureux, un soleil plus lumineux, à la fin de « Viens changer ma vie », librement adapté du succès « Color my world » de Petula Clark. Sa chanson « Cowgirl Dory » marquait la transition, ou plutôt le retour, vers le style country qui s'amorçait déjà avec « Si on pouvait recommencer », « Le bateau du bonheur » 1971 et « Un amour qui ne veut pas mourir » 1972. Un album occupe une place particulière dans sa discographie. « Réflexion » 1974, qui constitue une bifurcation avec des chansons originales et non plus des adaptations de chansons anglaises. « En 1993, René Martel a réenregistré ses premiers succès, et je crois que ce fut une erreur, car les nouvelles versions perdaient cette sonorité et cette fraîcheur propre aux années 1960. Mais il faut admettre qu'au début des années 1990, au moment de l'apparition du CD et de la disparition, drastique mais provisoire, du vinyle, ces premiers enregistrements étaient devenus introuvables depuis longtemps. Par ailleurs, et en dépit du talent indéniable de toutes les chanteuses qui lui rendent hommage en reprenant ses chansons, le CD « C'est mon histoire, hommage à René Martel », paru en 2015, reconfirme malgré tout que c'est vraiment la voix inimitable de René Martel qui était magique, beaucoup plus que son répertoire. Fort heureusement, ni le temps ni la maladie n'ont entravé sa voix inégalable. En 2015, Cap au Diamant lui avait rendu hommage lors de la parution de son livre et du coffret quintuple en CD intitulé « 5 albums incontournables ». Outre l'excellente biographie rédigée par Daniel Lorrain, le roman de René Martel, le portrait le plus instructif sur René Martel peut être consulté sur le site Québec Info Musique, qui fournit les titres originaux de ses grandes chansons, souvent adaptées à partir de compositions anglo-saxonnes. On y trouve aussi quelques extraits vidéo, car il fallait voir René Martel. Charme, candeur, élégance et une voix caressante que l'on ne se lasse pas de réentendre. C'était René Martel, 1947-2021, Une éternelle jeunesse, un texte de Yves Laberge paru dans Cap au Diamant, été 2022, numéro 150. Le trésor de Lotbinière, un texte de Simon Diot, paru au printemps 2022 dans le magazine Géoplanaire numéro 199. Il y a 300 ans, les vieilles forêts de plus de 200 ans recouvraient plus de 70% du sud du Québec. Aujourd'hui, elles ont presque totalement disparu au profit de l'agriculture et de la foresterie. Il en reste cependant des vestiges à l'intérieur même de la forêt de la seigneurie de Lotbinière. De part et d'autre du sentier, la petite boucle, le boisé ne paie pas de mine. Y poussent surtout de petits érables rouges qui ont profité d'une coupe à blanc pour occuper tout l'espace disponible. Écologiquement parlant, c'est une zone d'une faible valeur biologique. Mais en rejoignant le sentier des Trois Fourches, quelques centaines de mètres plus loin, le paysage se transforme. Des arbres majestueux, comme des érables à sucre, des tilleuls et des résineux de grande taille dominent le corridor de la rivière du Chêne. Les branches de ces géants tamisent les rayons du soleil. Le mercure chute de quelques degrés. Par terre, d'épaisses mousses vertes colonisent les arbres morts couchés au sol. Ces vestiges forestiers se découvre en marchant dans le réseau de sentiers d'une vingtaine de kilomètres des Trois Fourches, via le village de Leclerville à une soixantaine de kilomètres des ponts de Québec. Ces pistes, dont l'accès est gratuit, nous ouvrent la porte d'un territoire unique, la forêt de la seigneurie de Lotbinière, FSL. D'une superficie de 163 kilomètres carrés, cette dernière est la plus importante forêt publique des basses terres du Saint-Laurent. Elle fait partie de la MRC de Lotbinière et chevauche les municipalités de Leclercville, Saint-Édouard-de-Lotbinière, Saint-Janvier-de-Joly et Val-Alain. Dans Lotbinière, quasi toutes les terres ont été privatisées depuis longtemps. Si cette forêt demeure encore du domaine public, c'est en raison de son histoire singulière qui remonte à l'époque de la Nouvelle-France. Concédée aux seigneurs de Lotbinière en 1693, la FSL restera la propriété de la même famille pendant 275 ans, qui l'ont exploitée de façon durable. D'ailleurs, un de ses propriétaires, Henri-Gustave Joly de Lotbinière, 1829-1908, deviendra un défenseur des milieux naturels, remettant en question le mythe de la forêt inépuisable. Ce visionnaire est en quelque sorte le Richard Desjardins du 19e siècle, dénonçant le pillage de nos terres publiques. Le gouvernement du Québec exproprie la FSL en 1968 dans le but de couper l'herbe sous le pied au gouvernement fédéral qui convoitait cette propriété en vue d'en faire une forêt expérimentale. Quelques années plus tard, celle-ci est pour ainsi dire toute livrée à la voracité des compagnies forestières. En moins d'un demi-siècle, les bûcherons rasent pratiquement tous les boisés d'origine. Par miracle, les coupes épargnent les corridors des trois principaux cours d'eau de la FSL, là où circulent maintenant les sentiers du secteur des Trois-Fourches, où se terrent les vieilles forêts spectaculaires, comptant des pruches de plus de 300 ans. Du relief dans la plaine. Bien que le relief de la FSL soit relativement plat, le sentier des Trois-Fourches, le tronçon principal qui fait 15,6 km, ne constitue pas une balade du dimanche. Son corridor de marche suit les méandres de la rivière du Chêne, un important cours d'eau de la région, en se promenant de haut en bas de terrasses alluviales, fruit de l'érosion du sol sablonneux et argileux. Résultat, un sentier en montagne russe, presque entièrement riverain, qui renferme quelques portions assez pentues. En cheminant sur le sentier, on croise des plages de sable un peu partout. En mai et juin, faites attention où vous mettez les pieds, ce sont les sites de ponte de la tortue des bois, une espèce considérée comme vulnérable au Québec. Prière de ne pas déranger si vous apercevez ce reptile au plastron jaune. Les autres sentiers de la FLS font surtout office de point d'accès au tronçon principal. Le réseau permet de constater à quoi ressemblait ce territoire à l'époque de la Nouvelle-France quand 70% du sud du Québec était composé de forêts de plus de 200 ans. Actuellement, cette zone forestière ne bénéficie d'aucune protection. Les militants des Amis de la forêt seigneuriale de Lotbinière, en collaboration avec la MRC de Lotbinière et plusieurs autres partenaires, tentent de préserver le peu qu'il reste. L'objectif est de créer une réserve de biodiversité avec un corridor de 11 km² de part et d'autre de la rivière du Chêne et de ses principaux tributaires, préservant ainsi des témoins de la forêt d'antan. Espérons que cette réserve de biodiversité dans Chaudière-Appalaches, une région nettement déficitaire en matière d'aires protégées, se concrétise le plus rapidement possible. Pour la survie de ces lieux séculaires et pour le plaisir de les admirer en rando. C'était Le trésor de Lotbinière, un texte de Simon Diot, paru au printemps 2022 dans le magazine Géoplanaire, numéro 199. Thank you. Les combats du libraire Bernard Amtmann, un texte de Philippe Rioux, paru dans Capot Diamant, été 2022, numéro 150. Issu d'une famille juive habitant Vienne, Bernard Amtmann, 1907-1979, arrive au livre rare canadien au bout d'un périple rocambolesque. À 12 ans, il fait un premier séjour en France dans un pensionnat en raison des difficultés financières que sa famille connaît après la Première Guerre mondiale. De retour en Autriche, il interrompt ses études secondaires et enchaîne les petits emplois en étant tour à tour messager, apprenti dans une banque et employé dans une imprimerie. S'il ne termine pas sa scolarité, Amtmann acquiert par ses expériences de jeunesse une formation qui lui sera fort utile. Son aisance avec les chiffres, sa maîtrise du français et sa connaissance technique des imprimés constitueront d'importants atouts pour le futur libraire. Amtmann s'occupe avec sa sœur Annecy d'une boutique de matériel photographique lorsque l'armée allemande arrive en Autriche le 12 mars 1938. Pressentant la menace qui pèse sur lui, il s'enfuit en France dès le lendemain. Sans papier, il s'enrôle dans l'armée française pour éviter la déportation à l'âge de 31 ans. Des armes aux livres. Lorsque les forces nazies s'emparent de la France en mai 1940, Amtmann se réfugie à Montauban, ville qui n'est pas occupée. Il s'engage dans la résistance tout en étant serveur dans un hôtel fréquenté par des officiers allemands. Il agit à titre d'interprète auprès d'eux et glane au passage des renseignements militaires qui lui permettent de planifier des missions de sabotage. Ses exploits lui valent le grade de lieutenant de la résistance, puis, après la libération, celui de sergent. Son parcours dans l'immédiate après-guerre n'est pas bien documenté, mais on sait qu'il collectionne et vend des livres rares à petite échelle. Il s'agit sans doute pour lors d'un passe-temps auquel s'adonne Amtmann durant ses temps libres. Son frère William, établi à Ottawa depuis 1940, le convainc de le rejoindre au Canada en 1947. Ils fondent ensemble une librairie et publient leur premier catalogue en 1948. William se dévouera finalement à sa première passion en devenant responsable de la musique instrumentale pour la Commission des écoles publiques d'Ottawa, tandis que Bernard ira rejoindre sa sœur à Montréal en 1950. Arrivé dans la métropole québécoise, il y retrouve quelque chose du vieux continent. Un aspect cosmopolite qui s'accorde bien, d'ailleurs, avec son intérêt pour le livre ancien de langue française qu'il a développé durant ses séjours en France. Il ouvre donc la librairie Amtmann sur l'avenue Green en mai 1951, sans se douter à ce moment qu'il marquera l'histoire de la bibliographie, de la collection et de la librairie au Canada. Un entrepreneur au service des Canadianas. L'intérêt d'Amtmann pour le patrimoine canadien est insatiable. Autodidacte, il passe son temps libre à éplucher les ouvrages historiques et bibliographiques pour mieux connaître les moments marquants qui ont façonné son nouveau pays. Cela se reflète automatiquement sur l'inventaire. Très tôt, Amtmann conçoit que l'activité à laquelle il s'adonne appelle des stratégies commerciales particulières. S'il est indéniablement un homme de lettres et de culture, il se définit également comme un entrepreneur. À ce titre, il fait preuve d'audace et saisit la moindre opportunité qui se présente à lui. Dès 1960, il diversifie ses activités en fondant la filiale Laurie Hill Limited, dédiée aux livres publiés hors Canada et aux premières éditions récentes. Administrée par Laurie Leroux, cette entreprise mettra en valeur jusqu'à sa fermeture en 1975 les travaux d'écrivains canadiens anglais contemporains tels Aldous Nolan et Mordecai Richler, tentant même à plusieurs occasions d'obtenir leurs manuscrits pour les mettre en vente. La scène sur laquelle Amtmann s'illustre avec le plus de retentissement demeure toutefois celle des encans de livres. En 1966, la Literary and Historical Society of Quebec interpelle Antman parce qu'elle souhaite vendre ses collections pour compenser des difficultés financières. Le libraire choisit de les mettre aux enchères afin d'écouler le lot rapidement, tout en en tirant le meilleur profit. Le succès de l'événement ne semble pas laisser Antman indifférent. L'année suivante, il met sur pied la compagnie Montreal Book Auctions, qui tiendra 600 camps de livres d'avril 1967 à novembre 1968. Un partenariat avec la prestigieuse maison britannique Christie's, qui doit faciliter le retour au pays d'ouvrages canadiens expatriés, permettra à Antman d'organiser une vingtaine d'événements supplémentaires d'avril 1969 à septembre 1970. Vous écoutez « Les combats du libraire Bernard Antman », un texte de Philippe Rioux paru dans Cap au Diamant, été 2022, numéro 150. Il faut dire que les encans, tout énergivore qu'ils soient, car ils nécessitent la confection et la diffusion de catalogues constamment mis à jour, présente de nombreux avantages pour la firme montréalaise. La surenchère, évidemment, permet de vendre des documents à des prix qui auraient fait reculer la clientèle traditionnelle de la librairie Antman. Plus encore, elle force les décideurs publics à constater la valeur culturelle et financière des imprimés qu'ils avaient négligés. Fin renard, Antman constate en effet que, devant l'intérêt des collectionneurs étrangers, les institutions locales délient un peu plus facilement les cordons de leur bourse. Ils n'ont d'autre choix s'ils veulent freiner la dispersion du patrimoine national. Des bibliothécaires et des archivistes qui se sentent ainsi coincés par le libraire ne manqueront pas de lui reprocher cette pratique qu'ils jugent déloyale. Un polémiste redoutable. Ne reculant devant aucun combat, Antman s'engage dans de nombreuses querelles publiques à propos du traitement réservé à la culture imprimée. Il accuse régulièrement les archivistes de laisser filer des documents historiques importants hors du pays. Refusant d'entendre les arguments de l'archiviste du Dominion Wilfrid L. Smith, Antman signe le 3 février 1973 une lettre ouverte aux archivistes canadiens afin de dénoncer leur incapacité à apprécier la valeur des manuscrits historiques. En fait, le libraire ne supporte pas que les archivistes considèrent les objets rares comme leur revenant de droit, en dépit des règles du marché. Il estime pour sa part que le travail érudit qu'il accomplit et l'extrême rareté des documents anciens justifient amplement les sommes exigées. C'est ce point de vue intéressé qui le pousse d'ailleurs à s'opposer, en juillet 1975, à la création de la loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, laquelle vise à contrôler l'exportation des documents culturels de haute valeur. Malgré ces cris, la loi est adoptée en 1977. Outre les considérations commerciales qui teintent évidemment le propos du libraire, ce qu'il désole surtout, c'est l'incapacité des institutions canadiennes à s'emparer de leur patrimoine culturel. Pessimiste, il attribue leur inaction à de l'indifférence, voire à une véritable conspiration contre l'identité canadienne. En définitive, Antman envisage l'écosystème livre de manière très segmentée. Il voit les rôles de l'archiviste, de l'historien et du libraire comme étant séparés nettement. Le premier est le gardien des documents, le second en détermine la valeur historique et intellectuelle, le troisième en fixe le prix. Chacun doit bien se garder d'outrepasser les frontières qui délimitent son territoire. Et évidemment, la situation est en réalité beaucoup moins schématique. Toujours est-il que le libraire, exaspéré par la bureaucratie qui ralentit ou empêche les institutions fédérales et provinciales d'investir massivement dans leur patrimoine imprimé, se fait polémiste pour secouer des structures qu'il considère comme apathiques. Les réactions vives que ces positions campées suscitent justifieront sa démarche en attirant l'attention de la presse, du public, des spécialistes du livre, des collectionneurs locaux et des instances gouvernementales sur des documents qui, autrement, seraient passés aux mains d'acheteurs étrangers en toute discrion. Le legs de Bernard Amtmann. Les prises de position endurcies d'Amtmann tout au long de la décennie 1970 sont peut-être une réaction aux difficultés professionnelles qu'il rencontre. Le partenariat avec Christie's ayant pris fin en 1970, le libraire doit mener seul les activités de la société Montreal Book Auctions. Endetté, il n'a d'autre choix que de se consacrer pleinement aux enchères, volet le plus rentable de son entreprise. Ses librairies en souffrent. Laurie Hill Limited ferme ses portes en 1975, tandis que la librairie Bernard Amtmann peine à renouveler son stock, les livres les plus attirants étant mis aux enchères pour maximiser les profits. C'est en partie pour renflouer ses coffres que le libraire cède ses archives administratives à l'Université de Montréal, 1972-1973, et ses documents bibliographiques à la Bibliothèque nationale du Canada, 1976. Il vend par ailleurs sa propriété située à Westmount. Drastique, ses actions s'avèrent efficaces et permettent à Amtmann de régler ses comptes. C'était « Les combats du libraire Bernard Amtmann », un texte de Philippe Rioux, paru dans Cap au Diamant, été 2022, numéro 150.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Anne Hébert à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.